La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu, ce dimanche. Bienvenue, vous qui échappez peut-être à toutes les difficultés de cette pandémie qui continue. Bienvenue aux enfants qui sont avec nous. Vous êtes ici avec vos moniteurs, monitrices, pour une séance d'éducation biblique qui est un peu revue ce matin. Mais en tout cas, vous allez passer un bon moment autour d'une histoire très belle que vous devez très bien connaître déjà, puisqu'il s'agit des mages, l'histoire des mages. Nous sommes à un dimanche de l'Épiphanie. Nous sommes donc, c'est traditionnellement le premier dimanche de l'année qui est l'Épiphanie, pardon. Mais là, nous allons le faire aujourd'hui avec vous parce que c'est un moment très important, un récit très important qui nous replonge dans toute l'histoire d'hommes et de femmes et d'enfants qui ont espéré que Dieu les sauve de tout ce qui était difficile dans leur vie. Et ça, c'est toujours d'actualité, aujourd'hui chez nous ici, mais aussi partout dans le monde, avec beaucoup de gens qui ont besoin d'un salut, de quelque chose qui les sorte de leurs difficultés. Et donc, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par Internet et qui sont avec nous, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous êtes ici en communion avec nous ce matin. Nous allons commencer ce temps de culte en priant ensemble pour nous remettre dans l'esprit de ce moment. Éternel, permet que nous soyons rassemblés ici en communion les uns avec les autres, dans cet amour que tu nous commandes, cet amour que tu nous rappelles sans cesse dans notre vie. Nous te demandons d'être attentifs à ta parole. Rends nos cœurs attentifs. Permets que nous soyons avec toi ce matin pour être mieux avec nos frères et nos sœurs ici, dans ce monde. Amen. Et je vous invite à prendre dans les psautiers français la liturgie qui est au début. Et c'est David qui nous accompagne ce matin à l'orgue. Je vous invite à vous lever, nous chantons ensemble. Réjouissons-nous au Seigneur. Nous louons le Seigneur et pour cette louange, je vais vous inviter les enfants à vous asseoir simplement pour écouter attentivement ce qu'il y a dans ce psaume. Vous allez voir qu'on retrace l'histoire d'Israël et c'est important pour vous de bien écouter pour vous remémorer tous les événements que vous avez déjà entendus en éducation biblique et que vous connaissez sans doute. Écoutez bien les prénoms qui sont dits et vous retrouverez les personnages bibliques que vous connaissez. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses très hauts faits. Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui, réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré, que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez-le constamment. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, et de ses prodiges et de ses jugements. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis, c'est lui le Seigneur Adonai, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur la terre, et il se souvient toujours de son alliance, de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il a établi cela comme une prescription pour Jacob, comme alliance perpétuelle pour Israël, en disant « Je te donnerai Canaan comme le patrimoine qui vous est échu ». Ils étaient alors un petit nombre d'hommes, une poignée, et ils séjournaient là en immigrés. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne laissa aucun humain les opprimer, ni ne leur faire. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. « Ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Il appela la famine sur le pays. Il leur retira le pain. Il envoya en avant d'eux un homme, Joseph. Il fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des entraves, on le mit au fer, jusqu'au temps où sa parole se réalisa et où le décret du Seigneur lui fit surmonter l'épreuve. Le roi donna l'ordre de le relâcher. Le maître des peuples le fit délier. Il le fit seigneur sur sa maison et maître de tout ce qu'il possédait, pour contraindre à son gré ses princes et rendre sages ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna en immigré dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus fort que ses adversaires. Il changea leur cœur, de sorte qu'ils se mirent à détester son peuple et traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils firent paraître ses signes au milieu d'eux, des prodiges au pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Vous vous souvenez de ce que c'est comme épisode, ça ? Ils sont en Égypte. Qui va les faire sortir d'Égypte ? Oh non, vous n'allez pas me faire ça. Qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte ? Je crois qu'ils dorment tous encore un peu. Oui ? Ben oui. Non, alors, en fait, ils sont très timides. Alors oui, ne vous inquiétez pas, vous avez bon, c'est Moïse. C'est bon. Voilà. Ils firent paraître des signes au milieu d'eux, des prodiges au pays de Canaan. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils fuirent loin d'Israël. Et voilà comment se termine cette histoire merveilleuse. Ils ont passé la mer Rouge et ils sont partis d'Égypte vers un pays qu'ils ont mis très longtemps à trouver, où ils ont dû avoir vraiment confiance en Dieu pour continuer à avancer vers ce pays de la terre promise. Voilà toute l'histoire d'un peuple dont on vous parle sans cesse à l'éducation biblique, et il faut louer Dieu parce qu'il est toujours avec les humains, pas seulement avec le peuple d'Israël, avec tous les peuples de la terre. C'est notre foi. Et c'est ce que nous allons encore vous apprendre aujourd'hui dans cette éducation biblique. Que le Seigneur soit loué pour ce qu'il nous apprend pour la vie des êtres humains et pour son alliance avec eux. Alléluia. Je vous invite à prendre le cantique, le psaume 101 dans les psautiers français. Et nous chantons tous ensemble notre louange. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous commande dans notre vie à travers les paroles de l'apôtre Paul. Paul met dans une de ses lettres un texte très beau. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. Et il dit, l'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa voie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Chantons ensemble. Toujours, nous nous présentons devant le Seigneur avec confiance, parce qu'il arrive parfois que nous soyons un peu éloignés de lui. Alors, il faut parfois lui dire sincèrement, Seigneur, prépare dans nos cœurs tes chemins. Les collines de nos orgueils, abaisse-les par ton humilité. Les vallées de nos désespoirs, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de nos mauvaises foies, redresse-les par ta vérité. Et que fleurisse dans notre hiver la joie de ta grâce. Alors nous pourrons voir ta gloire et ta présence dans le visage de chacun de nos frères et chacune de nos sœurs. Amen. Vous avez vu dans les cantiques, l'univers peut s'étonner. C'est extraordinaire quand même ces paroles. Je vous invite à vous lever tous pour recevoir la grâce renouvelée sur nos vies. Le Seigneur dit dans Ésaïe, je les guérirai et je les conduirai et je les comblerai de consolation. Paix, paix à celui qui est loin comme à celui qui est proche, dit le Seigneur. Je les guérirai. nous confessons notre foi ensemble. Nous croyons en Dieu qui se montre à nous dans un petit enfant. Il nous rappelle notre condition humaine et peut nous sauver de toute arrogance. Il nous adresse sa parole de grâce en habitant notre terre. Grâce à lui, nous sommes bénis chaque jour. Nous croyons en Jésus, l'enfant qui naît à Bethléem. Il est la parole de Dieu incarnée. Il nous parle de la foi qui transforme toute vie en espérance. Grâce à lui et à sa foi, nous pouvons affronter l'adversité avec confiance. Nous croyons en l'Esprit Saint, celui qui inspira Joseph, Marie, Élisabeth, Zacharie et tous les témoins qui ont accueilli Jésus comme le Messie. Il nous éclaire dans la foi comme une étoile qui convertit nos cœurs. Grâce à lui, nous pouvons rester fidèles à Dieu. Que l'étoile annonce le salut, que les mages du monde entier la suivent, que les bergers se remettent en marche et que les anges chantent ses louanges. Nous croyons en un Dieu qui croit assez en nous pour nous rejoindre dans notre fragilité, de la naissance jusqu'à la mort. Sa foi est notre résurrection. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode,
ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Je vous invite à prendre le cantique 218, après quoi les enfants, vous pourrez rejoindre avec les monitrices la maison presbytérale pour aller faire votre séance d'éducation biblique de ce matin. 218, les strophes 1 et 2. Et nous nous levons. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de ta parole, source de nouveauté dans nos vies. Si trois rois des Indes venaient aujourd'hui en France, conduits par une étoile et s'arrêtant chez une femme de Vaugirard, on ne ferait pourtant jamais croire au roi régnant que le fils de cette villageoise fut le roi de France. Voilà ce qu'on peut lire dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui fait un parallèle assez osé entre l'histoire des mages venus d'Orient à Bethléem et le massacre des innocents, avec plusieurs choses qui sont très proches de lui à Paris, et notamment le massacre de la Saint-Barthélemy. Cette objection à l'historicité des faits racontés dans le récit de la venue des mages est une de celles que cite Voltaire dans son dictionnaire, et du point de vue de l'histoire, on est tenté de prendre en compte une telle objection, car le récit a quelque chose d'un peu merveilleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du point de vue du témoignage, il est bon de se demander, comme toujours à la lecture des textes bibliques, pourquoi raconter une telle histoire ? Dans ce texte, ce ne sont pas les raisonneurs qui ont la part belle, mais les rêveurs. Les mages sont divinement avertis, en rêve, de ne pas retourner chez Hérode. Et l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph. Joseph qui avait déjà rêvé bien avant la naissance de Jésus. Et donc, ce nouveau rêve lui dit qu'il faut qu'il fuie en Égypte avec Jésus et Marie pour sauver sa famille et précisément l'enfant Jésus. Alors en effet, ces mages sont très certainement des personnages plutôt fictifs, il faut le dire, même si la navigation à l'étoile existait déjà et existe encore dans le désert. Il est très peu probable que l'annonce de la naissance de Jésus ait pu se lire dans un tel astre et qu'elle ait conduit des astrologues jusqu'à une étable de Bethléem. Enfin, que Joseph ait fui avec un nouveau-né et accompagné de sa femme en Égypte pour revenir de ce pays à la mort du roi et s'établir à Nazareth, passant deux fois la mer Rouge pour reprendre tranquillement son métier de charpentier, c'est aussi extraordinaire. Mais alors, à quoi rêvaient les auteurs de l'évangile de Matthieu quand ils ont rédigé un tel récit ? Peut-être faut-il d'abord se demander pour qui les auteurs ont rédigé cette histoire, cette aventure. L'évangile de Matthieu est identifié à un texte écrit par et pour une communauté de juifs convertis à l'enseignement de Jésus, vivant en diaspora en Syrie, sans doute à Antioche sur l'Oronte, une étape importante pour la route de la soie. Cette communauté constituée d'exilés de Jérusalem ayant dû quitter la Judée après la destruction du temple en 70, semble très attachée par rapport aux autres évangiles. On voit que dans Matthieu, on est très très attaché à la loi de Moïse. C'est dans cet évangile qu'il est écrit « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abroger mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. » L'évangile de Matthieu est en quelque sorte saturé par des citations dites d'accomplissement. L'évangile consiste en une répétition sans cesse du fait que Jésus est celui qui va accomplir les prophéties annoncées dans la première alliance. Il s'agit là d'accréditer le fait que Jésus est bien le Messie tant attendu. Mais c'est un accomplissement centré sur le commandement d'amour du prochain, plus que sur l'observance des rites, même si cette communauté, historiquement, on l'a perçue, était très attachée aux rites juifs et continuait à observer tous les rituels juifs qu'il pouvait observer. Mais l'essentiel ici, c'est l'enseignement du Christ et sa relecture de la loi de Moïse. Alors évidemment, la pratique religieuse a beaucoup changé depuis que le temple n'est plus le centre de la vie religieuse pour ces communautés en diaspora. Comme on peut le lire dans tout le passage où Jésus répète « Vous avez entendu, moi je vous dis », vous savez tous ces textes un peu d'éthique, de vie qu'on trouve dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, on voit là qu'il s'agit d'une éthique de vie de ces convertis au Christ qui prend ses distances avec l'observance des pharisiens devenus omniprésents dans le paysage juif de cette époque de diaspora, pour prôner en fait une fidélité à Dieu dans la vie personnelle de chacun plutôt qu'une observance des rites et une pratique religieuse avec des dogmes et des choses très, très, très fixées. On voit là donc une communauté qui est à la fois extrêmement fidèle et en a beaucoup le souci, et puis en même temps prend ses distances grâce à un enseignement nouveau qu'ils ont reçu, l'enseignement de Jésus. Quelle est donc l'épiphanie, la manifestation de Dieu que l'évangile de Matthieu déploie devant nos yeux avec ce texte, à la fois nos yeux éblouis et nos yeux dubitatifs? Éblouis parce que l'imagerie qu'utilise ce récit de naissance a tout d'un rêve. Des voyageurs venant de loin, ayant les couleurs et les parfums des grandes caravanes, venant de contrées exotiques, suivent une étoile pour arriver devant un nouveau-né dans une étable et lui offrent rien moins que de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Dubitatif aussi parce que cette imagerie, même inspirée par les caravanes de la route de la soie qui faisaient sans doute escale à Antioche-sur-l'Oronte, ne peut être le reflet exact de la réalité. Cet épisode de l'Évangile a inspiré beaucoup de récits imaginaires, bien sûr, jusqu'à affirmer que les mages étaient rois, et non pas seulement des savants, qu'ils étaient trois, et qu'ils avaient chacun un prénom et une ethnie déterminée, qui les faisait en quelque sorte ambassadeurs d'une partie du monde. On en a fait une preuve de l'universalisme du message évangélique, alors que l'Évangile de Matthieu s'adresse stricto sensu à des Juifs qui veulent suivre le Christ tout en restant Juifs, au moins dans les premiers temps de cette communauté. Et si nous aussi, nous nous prenions à rêver qu'il est possible de comprendre de quoi nous parle ce texte? Si le code nous en était donné par l'histoire même de ce peuple juif, toujours en exil. Si l'épiphanie pouvait se produire en nous aujourd'hui par la compréhension même de ceux à qui elle était adressée dans ce récit originel. Il faut recommencer l'enquête et la recherche. L'évangile de Matthieu rêve de salut pour Israël avant tout, et pour témoigner du fait que c'est dans la vie de Jésus de Nazareth que ce salut s'est manifesté, que c'est en cet enfant qui vient de naître que se fait l'épiphanie, l'évangile refait l'itinéraire du salut tel qu'il s'est manifesté d'âge en âge pour Israël, et même quand il parle de ces mages très exotiques. Alors que représentent ces personnages venus de loin pour ce rêve de salut? Ces mages sont des savants astrologues, comme les prêtres du zoroastrisme, la religion de l'Empire perse, qui avait comme prophète Zarathoustra et qui prônait une égalité pour tous, hommes et femmes, ce qui à l'époque n'était pas si évident, ce qui n'est toujours pas évident d'ailleurs aujourd'hui, petits et grands, avec aussi un rêve de justice très grand et un espoir de vivre de façon la plus juste possible dans la paix. Une religion qui, elle aussi, parlait d'amour du prochain et qui, elle aussi, était monothéiste. Cette religion était celle de Cyrus le Grand, l'empereur perse dont les Hébreux avaient fait dans leur histoire nationale le Messie de Yahvé, rien que cela, loin de Dieu, celui qui avait reçu l'onction de Dieu, parce qu'en conquérant Babylone, il avait bien traité les exilés et leur avait permis de rentrer à Jérusalem pour reconstruire leur temple, restituant toutes les richesses dont Israël avait été spolié par Nabuchodonosor II. Et cela, on le trouve dans le livre d'Esdras, dès les premiers chapitres. Il y a vraiment un panégyrique qui est fait de Cyrus le Grand. Cyrus le Grand était donc un roi juste, alors non juif certes, mais un prince de paix comme l'espéraient les prophètes bibliques. Alors que ces mages viennent trouver l'enfant Jésus, soit l'expression d'un rêve d'un nouveau Messie à la manière de Cyrus le Grand, ça n'a rien d'étonnant. Un pourvoyeur de paix, de justice et d'amour du prochain. Ces mages ont le privilège d'être avertis en songe des desseins de Dieu. Ils sont donc à égalité avec les grands prophètes d'Israël et avec un autre rêveur, Joseph. Joseph, qui est bénéficiaire des conseils avisés d'un ange, qui lui apparaît en songe et lui fait prendre des bonnes décisions. Ne pas répudier Marie, ne pas rester pour éviter la mort de Jésus, ne pas revenir avant qu'Hérode le Grand ne meure. Joseph, lui, est présenté comme tout d'un coup un grand voyageur, renouant avec l'histoire du salut d'un peuple qui vécut 40 ans de nomadisme pour gagner sa terre sainte et s'arrêter enfin. Joseph fait l'aller-retour dans ce texte entre la Galilée et l'Égypte. Il traverse deux fois la mer Rouge, faisant ainsi de Jésus, pour les auteurs de l'évangile de Matthieu, un nouveau Moïse, traversant pour le salut de son peuple, là où les ancêtres avaient eux-mêmes traversé. Jésus est alors à la fois l'enfant rescapé, puisqu'il échappe au massacre des innocents, comme Moïse en son temps avait été sauvé, et il est aussi celui qui traverse la mer et qui permet de faire ce passage entre l'esclavage et la libération. Combien de Juifs de la communauté mathéenne devaient souhaiter la libération de ce pouvoir de l'Empire romain qui les écrasait? Et combien rêvaient de la vie d'avant à Jérusalem sur cette terre promise, sans doute. Ce chemin de Joseph évoque aussi la demande de Joseph, de ce Joseph du Premier Testament, l'autre Joseph, qu'il avait faite à ses frères d'aller chercher ses ossements en Égypte quand il serait mort, pour qu'il repose sur la terre promise auprès des patriarches pour l'éternité. Combien de Juifs de la communauté de Matthieu, exilés à Antioche-sur-le-Ronte, rêvaient sans doute de pouvoir enterrer leurs morts sur la terre d'Israël auprès de Joseph, fils de Jacob, et de tous les autres patriarches. Ce récit de la visite des mages, dans sa relecture de la mémoire d'un peuple, ressemble à la Haggadah, cet ensemble de récits qui racontent les péripéties du peuple d'Israël avant qu'il ne sorte enfin du pays d'Égypte. C'est un texte que l'on raconte durant le repas traditionnel de la Pâque juive, comme récit d'accomplissement de la volonté de Dieu pour libérer son peuple. Ces récits mémoriels sont ce qui fonde le peuple d'Israël et sa relation à Dieu. On peut imaginer sans peine que dans la pratique religieuse de ce peuple exilé et sans temple qui fait le culte à la maison, puisqu'il n'y a plus de lieu où le faire ailleurs, on peut imaginer que ce peuple d'exilés sans temple, converti à la parole de Jésus et pratiquant désormais le repas de la Pâque chaque semaine dans les maisons des fidèles, on peut imaginer que ces récits d'enfance de Jésus, ces récits extraordinaires de l'origine du Messie, sont devenus les récits qui ont fondé le peuple des disciples de Jésus et leur relation à Dieu, leur Haggadah à eux en quelque sorte. Mais dans ce récit de Matthieu, ce n'est pas Pharaon qui est mis en avant comme celui qui empêche le peuple de pouvoir être libre. C'est Hérode, Hérode le Grand, qui joue le rôle du Pharaon oppresseur en quelque sorte. Pourquoi Hérode? Peut-être parce qu'il est mort l'année de la naissance présumée de Jésus, en moins 4. Le Christ a en effet la particularité d'être né 4 ans avant la date de sa naissance officielle. Ça arrive surtout à lui. Et donc, il a la réputation, ce roi, d'être un roi sanguinaire qui a d'ailleurs tué ses propres enfants pour ne pas qu'ils lui prennent le pouvoir. Vous imaginez un peu le psychisme de cet homme. Peut-être aussi parce que, avec ce massacre des innocents, tout d'un coup, Hérode apparaît le candidat favori pour recommencer un massacre, même si ce massacre-là n'a été accrédité par aucun historien. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu du tout de massacre à cette époque-là dans cette région, mais en tout cas, on le raconte dans ce texte-là pour faire écho à ce roi très très violent. Et puis peut-être aussi qu'on parle d'Hérode le Grand comme le nouveau pharaon, parce que Hérode le Grand était le fondateur de la ville d'Antioche sur l'Oronte, lieu d'exil des Juifs qui ont fui Jérusalem et qui ont fondé la communauté de Matthieu. Alors évidemment, il était évidemment une figure extrêmement emblématique de ce pouvoir romain institué avec des rois hébreux qui faisaient plier les populations. Il est encore un personnage dont nous n'avons pas décodé le message. Il s'agit de l'étoile. Que dit-elle, cette étoile ? Dans le livre des Nombres, un verset dit « Une étoile jaillira de Jacob ». C'est une prophétie de Balaam. C'est d'un sauveur dont parle le livre des Nombres. Dans les années 130, bien plus tard, après la destruction du temple et après la formation de la première communauté de Matthieu, un certain Bar Corba, ce qui veut dire en hébreu « fils de l'étoile », mènera en Judée la dernière grande révolte qui pouvait laisser espérer aux Juifs des années plus tard que tout était encore possible. La reconquête de Jérusalem, le retour au pays et la reconstruction du temple. Alors, évidemment, cette façon de parler de fils de l'étoile, cette espérance qu'une étoile jaillira de Jacob, était un motif que tous les Juifs connaissaient et espéraient au moment où ces textes sont écrits. Mais nous voici au terme de notre rêve. Et durant ce rêve, nous avons refait la route du salut d'un peuple en exil, réinterprété les événements à la lumière de l'étoile de la foi. La puissance de ces rêves est sans doute dans le changement qu'ils opèrent dans la conscience collective d'un peuple. Rêver à la liberté, c'est ne pas désespérer, c'est être toujours dans l'attente que cette liberté verra le jour. Alors que la communauté mathéenne prône la fidélité à la loi de Moïse et un entre-soi juif, au départ en tout cas, l'évangile va se terminer par l'envoi des disciples vers le monde entier. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Déplaçant ainsi son message interne au judaïsme vers l'universalité, vers l'offrande d'un témoignage qui leur aura fait vivre l'espérance sans cesse et qu'ils vont pouvoir partager avec d'autres, certes des non-juifs, mais des gens qui, comme eux, espéraient être libres. Ces récits, tels des racines profondes, sans cesse réinterprétées, ont permis à ces judéo-chrétiens de s'ouvrir à ceux qui, bien que païens, voulaient les rejoindre à la suite du Christ pour partager avec eux une espérance universelle, un rêve d'amour, de liberté, que déjà l'étranger Cyrus avait partagé dans sa foi. Un salut promis à tous, une étoile dans la nuit. Le petit Jésus ne fut jamais roi, ni à Bethléem, ni à Vaugirard, mais il règne sur nos vies et sur nos rêves de paix. Amen. Merci David pour cette merveilleuse méditation musicale. Je vous invite maintenant à prendre le cantique 90. Voilà, je vous invite à vous asseoir et c'est maintenant le moment de partager quelques annonces. Et c'est Aurore, qui va, notre présidente du conseil presbytéral, qui va nous partager ses annonces.
Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. Vous avez vu, merci aux parents, grands-parents, oncles et tantes d'avoir emmené les enfants qui ont tous disparu, mais qui sont bien en face à la maison presbytérale. Au nom du conseil presbytéral, à nouveau, meilleure année 2022 à vous tous, vraiment du fond du cœur. Alors, comme dit le dessinateur Gay-Luc dans un de ses dessins du chat, nous aimerions bien être tous positifs, mais ça fout le bordel en ce moment. Donc, c'est vrai que ça désorganise beaucoup. Nous avons Agnès Adeline Schaeffer qui est encore au lit, malheureusement positive. Nous avons le pasteur Gilles Castelnau, malheureusement également positif. Nous avons un de nos organistes et maîtres de chapelle, Alexandre Korovitch, positif. Beaucoup de nos paroissiens également. Si vous connaissez des paroissiens touchés, vraiment, n'hésitez pas à nous appeler. L'entraide est là, le conseil presbytéral, mais aussi l'association de l'entraide pour aider à faire des courses et à ne pas rester isolé. On essaie de faire ce qu'on peut, ça va être encore compliqué. Il y avait une discussion entre deux paroissiens en disant « ça ne peut pas être pire cette année », quelqu'un lui répondant « si, ça peut peut-être être pire ». Nous n'en savons rien, nous sommes réunis ce matin, réjouissons-nous. cette semaine, qu'est-ce que nous pouvons assurer pour l'instant? Donc vraiment, regardez notre site internet systématiquement et l'agenda qui est en temps réel. Pour le moment, nous avons la chance, normalement, de t'avoir, Béatrice, mardi.
Mardi avec... soir, normalement, si tout va bien comme ça, je devrais être là avec Jean-Pierre pour Théophile, à 20h à la maison presbytérale. Alors, avec masque, distanciation, enfin, on va tout faire pour ne pas mettre en danger surtout les personnes les plus fragiles qui sont atteintes de maladies graves. Donc, il faut qu'on fasse très attention les uns aux autres. Si vous savez que vous risquez, vous avez des symptômes ou quoi, s'il vous plaît, faites-le savoir, ne venez pas et on vous envoie les documents parce que c'est vraiment trop dangereux pour les personnes. Mais en tout cas, on est là et on va essayer d'assurer cette séance Théophile sur le pouvoir et l'autorité.
Mercredi, nous avons Gustave et les jeunes qui vont assurer une séance sur le mystère, je me souviens bien. Jeudi, Agnès devrait être de retour pour la pause spirituelle. Si Agnès n'est pas de retour,
je serai là.
Béatrice assurera. Également, samedi, ça devait avoir lieu hier, mais donc si vous l'avez raté, ce n'est pas grave, il n'a pas eu lieu. Nous avions le premier concert spirituel de l'année sur une année nouvelle. Donc Alexandre Korovitch avec un de ses amis pianistes. Yannick Henry nous offre un concert avec les pasteurs sur le thème de l'année nouvelle, samedi à 16h, de samedi 16h à 17h. Dimanche prochain, nous assurerons aussi Parole d'amour sur le thème de la solitude. C'est un thème d'actualité.
Ne restez pas seul chez vous.
Voilà, ne restez pas seul de 13h à 14h. Nous avons supprimé tout ce qui est repas partagé, mais en revanche, de 13h à 14h, nous avons une séance dimanche prochain, Parole d'amour sur la solitude. Et dernière annonce à mettre dans vos agendas, parce qu'on en est vraiment très, très, très content. Nous avons le jeudi, je ne sais pas si c'est un jeudi, le 20 janvier à 20h, nous avons la chance d'avoir Thomas Romer et Frédéric Boyer qui viennent nous présenter leur dernier ouvrage, qui est « La Bible peut en cacher une autre ». Donc, pour ceux qui connaissent Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, c'est un homme qui est absolument passionnant, son ouvrage est passionnant. Donc il nous présente à 20h, probablement on le fera au temple pour pouvoir être distancié, son dernier ouvrage, la Bible, une Bible peut en cacher une autre. Voilà, avec Béatrice aussi qui préparera cette séance avec eux. Je vous souhaite un joyeux dimanche et à nouveau une bonne année. Et soyons tout ce qu'on veut, mais tous présents et ensemble. Et surtout, ne restons pas isolés. Merci à vous.
C'est le moment de l'offrande, donner le cœur joyeux et donner pour que cette Église continue à donner elle aussi. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remettons notre réalité présente, avec tous ces empêchements, ces incertitudes, la lassitude qui se fait jour alors que nous recommençons une nouvelle année avec des conditions très particulières de vie. Permets que notre joie soit contagieuse, que nous puissions être les uns pour les autres des sujets de reconnaissance. Permet aussi que nous ne soyons pas repliés sur nos propres problèmes et que nous puissions entendre les bruissements du monde autour de nous. En ce moment même, des hommes, des femmes, des enfants quittent leur pays, s'en vont parce qu'ils ont peur des dirigeants de leur pays, s'en vont pour trouver une vie meilleure ailleurs, s'en vont laissant tout derrière eux, confiant leur vie à des passeurs qui les prennent parfois pour des marchandises. Seigneur, pense avec nous à tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants sur les routes du monde qui cherchent un avenir meilleur. Permets que nous ne soyons jamais insensibles à cette quête de bonheur, de paix et tout simplement de sécurité souvent. Nous te remettons, Seigneur, notre monde. Permets que nous puissions y voir tes épiphanies, les moments où tu apparais dans nos relations, les moments où tu te manifestes dans le salut que tu nous donnes. Rends-nous reconnaissants à tous ces moments où tu te fais proche. Nous te demandons, Seigneur, le courage d'être dans la joie, le courage d'être vivant sans cesse avec toi, de cette vie que tu donnes à chacun dans la foi. Permets que nous soyons espérance pour les autres. Permets que nous puissions recevoir ton espérance dans nos vies. Et ensemble, nous te disons cette prière pleine de confiance que le Christ a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, courage. Il va falloir continuer à vivre de cette façon-là pour prendre soin les uns des autres. Mais nous sommes là avec toutes les possibilités que nous avons à vivre cette vie, dans ce monde, avec cette espérance toujours avec nous. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde.